Chapitre 16. De bon matin, le ciel encore grisâtre, Française était arrivée chez les Maurac. La pastoure mangeait une soupe à l'ail. La veille seulement, ses parents lui avaient appris, sur un air d'autorité tout simple, que le valet de M. Maurice de Valdez viendrait la prendre. Il ne savait pas au juste pourquoi, mais Calyste hochait la tête sans regarder Fine, en maugréant que c'était pour le bonheur de toute la famille. Fine verrait bien, d'ailleurs. Elle n'avait qu'à obéir. Les Valdez ne voulaient pas la manger, pour sûr. Elle n'avait donc pas à rester là, plantée comme une bûche, et tantôt à rire, tantôt à porter ses mains aux yeux pour pleurer. Philomène approuvait les conseils encourageants de son homme. Et plus que tout, plus que l'orgueil d'être désirée d'un riche, plus que l'imagination d'aller ramasser de l'argent et de l'estime, la voix de sa mère, rien que le son caressant et protecteur de ses paroles, ranimait la pastoure. Si ce n'était pas, en effet, pour le bien de ses enfants, de sa chaumière, Philomène jamais n'autoriserait Fine à s'embarquer pour le château. On ne pouvait pas comparer à tant de maîtres brutaux ou avares le comte Maurice de Valdez, dont personne ne pourrait évaluer la fortune, tant elle était ample. Monsieur Maurice ne méprisait pas les pauvres. Au contraire, il voulait se retremper dans la race profonde du Quercy, la race qui, chaque jour, manie la terre et les bêtes. Et, mon Dieu, qui savait ? Finette pourrait, un beau matin, s'éveiller d'âme si elle se faisait affectionner du monde du château et si elle se faisait valoir auprès de M. Maurice par les qualités que le ciel lui avait données. « Et moi ? » s'écria Reine avec effronterie. « Personne ne veut de moi !»« Ton tour viendra, » répondit Philomène. « Ta sœur peut t'y aider. » Cette flatterie de la mère décida tout à fait la pastoure, qui éprouvait, parmi les appréhensions de son insuffisance au château, la joie de quitter cette chaumière où elle avait tant pâti. Le souvenir d'Adrien, ce nigaud qu'il oubliait à Montratier, lui porta aux lèvres un crachat de mépris qu'elle jeta aux pieds de Française. « Apprête-toi, ma fille, lui dit celui-ci, et partons. » Fine s'endimancha, et après avoir, non sans solennité, embrassé ses parents, puis Reine, elle suivit le sourd. Fine et Française cheminaient. La campagne se développait, plus riche en mesure. Des blés, des pâturages qu'un ruisseau baignait, Fine entrevit, sur un sommet à la lisière d'un bois, quelques murs du château. Elle se sentit un froid au cœur. « Pauline, la servante de Monsieur le Comte, est donc malade ?» demanda-t-elle à Française qui penchait son oreille. « Non, elle n'est pas malade. »« Elle ne peut plus servir cependant, puisque vous venez me prendre. » »« Pauline ne s'arrêtera jamais de travailler. » »« C'est peut-être Suzanne, la fermière, qui souffre de quelque chose. » »« Suzanne, au contraire, embellit tous les jours. Et c'est peut-être pourquoi... son homme la serre dans sa maison avec une avarice incompréhensible. « Ah ! Alors moi, qu'est-ce que je ferai au château ?» Le sourd, qui cette fois n'avait pas bien entendu, haussa les épaules. Fine se reprocha d'être partie si vite, sans avoir, au moins, discuté les conditions de son embauchage. Elle redouta de voir maintenant le jeune seigneur, avec le même effroi qu'elle éprouvait de rencontrer, à la nuit tombante, à l'heure où les pastoures ramènent à l'étable leurs ouailles, des hiboux qui ouvrent leurs yeux méchants. L'émotion de l'inconnu l'étreignit jusqu'au cœur. Elle savait que M. Maurice aimait les pauvres, qu'elle ne souffrirait plus de la misère au château. Mais pourquoi tant de mystères autour de sa petite personne? Pourquoi M. Maurice l'avait-il choisie, elle si ignorante et si neuve, plutôt que reine, par exemple? Il ne manquait pas d'autres pauvresses au village et de très robustes, dégourdies. Elle se rappela cette timidité douce dont M. Maurice l'avait honorée pendant les vendanges, ses recherches d'étranges amoureux qui avaient flatté son amour-propre de faraude et la vision de ses jours de liesse déconcertait Fine davantage au milieu de ses incertitudes que Française ne s'efforçait pas de dissiper. Si l'orgueil d'une destinée brillante, la terreur de ses parents ne l'avait secourue, elle aurait lâché le sourd sur la route et serait retournée à l'Espigne. Elle fixait obstinément de ses yeux le château où s'agitait un remue-ménage d'hommes et de bêtes. des vaches liées aux joues descendaient le chemin pierreux qui coule de la ferme comme un torrent d'une source. Fine reconnut Zidore, lequel, son aiguillon à l'épaule, chantait. Soudain, Française, d'un coup de coude, poussa Fine sur la droite à la chapelle de Dorgue. Le silence régnait. Des moineaux nombreux piaillaient dans les haies, sur le toit de la chapelle, sur les croix pourries du cimetière. M. Maurice, seul dans la grange, languissait, non sans anxiété. Au bruit des pas, il apparut sur le seuil et, très alerte, comme si Fine n'eût pas été là, s'adressa à Française. « Vous avez été vite rendu. Merci. » Ensuite, sans regarder Finette, laquelle ne pensait à rien, tant elle était enivrée de joie et de crainte, il rentra. Finette suivit Française qui disait « Voilà, monsieur, notre demoiselle. »« Oui, oui, très bien. » On ne lui a pas dit ce qu'elle viendrait faire sous vos ordres. Et alors, vous comprenez, moi non plus, je ne lui ai pas dit. Tu as eu tort. Enfin, nous allons réparer. Maurice, le dos à la cheminée, que souillaient des cendres, des bûches éteintes, s'assit à table. D'un geste, il fit asseoir en face de lui, Fine, très docile, de plus en plus remuée de crainte, et Française. Celui-ci, ayant peut-être conscience de sa mauvaise action, tremblait. Maurice s'accouda. Les yeux dans les yeux de la pastour, il se mit à sourire. Elle souriait, par imitation, en fillette dévouée. Le vieux sourd les protégeait de sa présence. Tous deux, les pauvres, sentaient un même courage les ranimer agréablement. Maurice, enfin, avec calme, parla. « Eh bien, voilà, Finette, je voudrais vous compter dans mon personnel. » Pourtant, vous ne seriez qu'à mon service. Vous habiteriez ici, avec Française, cette grange de Dorgue que j'ai fait restaurer. Il me faut quelqu'un d'honnête, de vaillant, pour soigner cette petite maison, le jardin, le cimetière. Moi seul ? Je suis jeune, je ne sais pas grand-chose. Le ménage, pour une femme haute, un ménage si simple, n'est rien. Le pauvre Français se fait vieux. Celui-ci, exagérant son hébétude, examinait en dessous les deux camarades qui s'épiaient ardemment. Une rougeur voilait le visage de la pastoure. Elle regardait la cuisine avec un air d'expérience, l'affectation d'apprécier les qualités d'une maison, son bien-être. La salle, carrée, spacieuse, était éclairée par une grande porte et une haute fenêtre à volets gris. Elle s'ouvrait sur deux coteaux qui, là-bas, forment deux torrents de verdure dont le village, au milieu, paraît être la digue ébranlée. À sa main gauche, elle voyait l'évier, un menu fourneau de repassage. Puis la cheminée de briques où pouvaient se tenir deux hommes assis l'hiver auprès du feu et un escalier de bois grinçant qui montait en tire-bouchon à la chambre et au galetas. À droite, l'armoire énorme, luisante, fleurant l'ail et le pain, une table encombrée de litres et de verres posée contre le mur et qui était pareille à celle où, sur un banc, auprès de Française, Fine était assise. Maurice s'était tu. Les investigations de Fine l'amusaient. Mais ce brusque silence frappa la pastoure et, de nouveau, elle s'offrit, les mains jointes, aux paroles du maître qui demanda « Eh bien, Fine, que se passe-t-il dans ta tête légère ?»«
Je ne sais pas, soupira-t-elle. Seulement, je ne peux pas rester. »«
Pourquoi donc ?»«
Je croyais qu'on m'embauchait au château. »«
Mais oui, c'est toujours le château. » Est-ce qu'on se trouve mieux à l'Espigne ?
Moi, je m'y trouve toujours bien. J'y suis chez moi.
Ah ! Maurice, le front entre les mains, s'était accoudé sur la table. Une angoisse le faisait tressaillir. Il répétait tout bas : T'embaucher au château, ma petite. Au château. Française, sentant l'approche d'une bourrasque, s'esquiva. Il s'assit sur une pierre, un peu loin, au soleil. Fine s'absorba, immobile, dans l'attention de son dos voûté. Maurice sursautait d'ennui, s'écriait « Au château, je ne puis pas. Je sais bien, ça irait mieux, mais je ne puis pas. »
« Pourquoi ne voulez-vous pas me prendre ?»«
Pourquoi je ne puis te prendre, Finette ?» dit-il sur un ton de prière et de caresse. « Pourquoi ? Tu le demandes ?»«
Pardi !» Ici, tu serais heureuse. Tu ne servirais que moi. Je viendrai te voir tous les jours. Comprends-moi, Pastour.
Ma foi, non.
Voyons, tu as bien fréquenté au moins un pharo.
Oh, si peu. Le temps de me dire que les hommes sont des loups, surtout les riches, et qu'il faut les craindre.
C'est un imbécile. Il t'a mal élevé. Les loups n'ont pas de cœur. Oui, il y en a beaucoup dans le monde.
Mais moi, fine, je ne serai pas un loup, va.
Allons, reste. Tes parents se féliciteront de ta soumission et de ma conduite. Je leur donnerai des terres. À toi, je te donnerai de l'argent, beaucoup d'argent, tant que tu voudras.
Si je reste ici, qu'en ferai-je?
Mais quelques jours, tu sortiras de la grange. En attendant, tu seras ici ta maîtresse.
Maurice s'était levé, câlin, souple. Il s'approchait de la Pastour avec un frémissement de tout son corps. Il s'impatientait de toucher enfin cette chair fraîche qu'un jour, en passant, il avait désirée. Et il n'osait pas, devant la timidité de l'enfant têtu, imposer son autorité coutumière. L'amour s'imprégnait en lui d'une vertu, d'une chasteté, qui n'était point sans délices.
Fine, toujours humble, baissait les yeux, cachait ses mains. Elle se sentait faible, à la merci du maître, et aussi dans la tendresse de l'homme jeune qui commandait à tant de créatures et qui, devant elle, hésitait. Elle concevait de la joie nouvelle un orgueil. M. Maurice, certes, ne lui déplaisait pas. Il était plus beau qu'elle, parfumé, propre, radieux de toutes les élégances. Mais il était un dieu puissant qui, malgré tout, lui inspirait de la méfiance. Elle eut un sentiment de pudeur pour la première fois. Et se voyant, à cause de l'orgueil d'être désirée par un dieu de son pays, humiliée qu'il voulût l'acheter comme un agneau sans défense, elle l'eût repoussée avec colère si elle avait osé. Mais la pensée de l'argent revenait obstinément lui porter de l'ivresse. Elle inclinait le front, s'abandonnait doucement. Maurice lui saisit les mains, se mit à genoux, dans sa passion de la posséder aujourd'hui, tous les jours, à son gré.
« Fine, dit-il, je sais que je suis ridicule, moi, de te supplier ainsi. Mais je te veux, et tu me résistes. Comment te faire comprendre ton bonheur et le mien ? Là, tu vois, je suis à tes genoux, parce qu'ainsi, tu verras que dans cette grange, hors du monde, tu seras mon égal quand je serai près de toi. » Et que tu ne souffriras pas, et que mon vœu le plus précieux sera de te bien nourrir, de te bien soigner, de te bien élever dans toutes les joies. Tu n'auras donc pas un maître en moi. Je te prie en te baisant les mains.
Vous me faites honte, balbutia Fine, je sais moins que vous ce qu'il faut dire. J'ai peur qu'en vous mettant à mes genoux, vous vouliez vous moquer de moi et me tromper davantage.
Tu es sotte, mon enfant, aussi sotte que moi qui m'agenouille à tes pieds au lieu de te donner mes ordres.
Il la serrait fortement avec une folie croissante.
Elle se dérobait, redoutait une étreinte sauvage, la méchanceté que, parfois, le dimanche, elle voyait chez les pharaons brutalisant leurs pharaudes. Maurice, exaspéré, se redressa et, volontaire, il empoigna sa proie. Mais le vieux Français entrait de son pas monotone en bâillant.
Ah, gronda Maurice, j'oubliais que nous ne sommes pas seuls.
Il s'assit sur sa chaise avec bruit. Tout son corps était secoué du dépit de la défaite, de la honte de son amour puéril. Et il convoitait toujours, dans la fièvre de ses sens, la paysanne à qui le jeune âge, l'air d'innocence et de pudeur, donnait un charme inconnu sur leur terre.
Soudain, elle se leva. Maurice se leva aussitôt. Elle, tendant les bras, le repoussa d'une voix qui menaçait, implorait à la fois.
« Oh non, je ne veux pas! Laissez-moi!
Crois-tu qu'on veut te manger ?»«
Non, mais il aurait fallu m'expliquer votre volonté à l'avance. Il m'aurait fallu y songer. Non, non, je ne veux pas !»
D'un bond, elle se sauva, courut tel qu'un cabri, malgré les appels très doux de Maurice et de Frances. Elle courut longtemps. Son cœur battait avec violence, lui brûlait la poitrine. De temps à autre, elle se détournait, une seconde, puis reprenait sa course vers le village.
Il lui semblait échapper à quelque vengeance du riche sur les pauvres de l'Espigne, qu'il avait immolés, elle, pour leur sécurité et leur bonheur. Lorsque, dans sa terre, elle toucha la porte à claire-voix, Philomène, au fond de la chaumière, filait de l'étoupe. Calice labourait le champ de M. Andour derrière l'église. Fine n'avait plus la force d'entrer chez elle. On allait la gronder, la battre, la chasser peut-être. Sa mère, stupéfaite, l'aperçut. Elle arrêta ses doigts au travail et, de douleur, elle ne peut articuler qu'un mot. « Tais, tais !» Fine courut vers sa maison, vers sa mère. Mais, sur la porte, elle hésita de nouveau. Sentant ses jambes fléchir, elle pleura. Philomène, lentement, s'avançait. Elle s'assit, auprès de son enfant, sur le banc de pierre. Farouche, ne sachant exprimer sa surprise, elle lui arracha les bras du visage.
« Eh bé, que fais-tu ici ?»«
Je reviens, ma mère !»«
Pourquoi ?»
Fine, bien malheureuse, se mit à pleurer, à crier davantage.
« Où donc Française t'a-t-il conduite ?»«
À la chapelle de Dorgue, à la petite grange. »
« Ah !
J'y serais resté là, toujours.
Tant mieux, tu aurais vécu à ta guise.
Enfin, que t'a dit M. Maurice ?»«
Rien. »
Fine, les bras croisés, se renferma dans un mutisme bourru. Elle regardait fixement le jardin et, au-delà, les arbres du ruisseau.
« Tu n'as donc pas compris ?» reprit Philomène.
« Si, même il y a longtemps. »
« Alors je ne te comprends plus, moi. » Tu étais partie d'ici avec Française, si contente. »
Philomène, à ces mots, éclata de rire. Elle se trémoussa sur le banc avec une malice que son enfant ne lui avait jamais connue et, sur un ton de fanfaronnade, elle s'écria
« Je sais maintenant, ma fille, que nous vaincrons tes résistances, car Adrien ne t'épousera jamais, tu entends ?
Comment le sais-tu ?
Marthe ne consentira jamais à te donner son fils. »
« Je le lui prendrai. »«
Ah, tu n'es pas assez rouée. Si tu étais restée là-bas, M. Maurice t'aurait rendue heureuse, et nous également, puisqu'il nous avait promis des terres, et même plus tard, une somme de 1 000 francs. »«
1 000 francs, ma petite. »
Calice rentrait aussitôt, il lui sauta comme un chien à la gorge et la bourra d'insultes et de coups.
« Tu iras chez M. Maurice, cria-t-il. Je n'entends pas vivre de misère jusqu'à ma mort. » La veuve Radel, ton Adrien, je méprise tout ça. Crois-tu que nous irons mendier par ta faute ?
Mais je travaillerai, je me marierai.
Avec qui ? Avec un terreux qui, à force d'enfants, te rendra encore plus pauvre ? Tu n'es qu'une révoltée, une sotte. Attends, je vais te donner de l'esprit. Va-t'en au lit tout de suite. Tu ne souperas pas. Demain, tu ne déjeuneras pas. Je te prendrai par la famine et nous verrons.
Fine, moulue de coups, les paupières en sang, se hâta vers son réduit. Vite, elle se coucha, s'enveloppa de sa couverture déchirée, dans l'ombre secourable. Elle souffrait de ses blessures, elle haletait d'angoisse, les poings sur sa bouche, pour ne pas sangloter trop haut.
« Si je t'entends pleurer, je t'étrangle !» hurlait de la table le père Calice, avec une fureur d'ogre affamé.